Les 33 communes de Nouvelle-Calédonie ont élu leur maire. La page élection municipale se referme. Dans un instant, vous retrouverez la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. La reprise des vols Air Cal vers l'île des Pins. Un premier vol doit se poser à Tontouta dans les minutes qui viennent. Pas d'évolution pour l'instant vers les loyautés. À Paris, du nouveau, dans l'enquête sur la tentative d'attentat contre le siège parisien de la Bank of America. Le poseur de bombes artisanales est toujours en garde à vue. Deux autres personnes ont été interpellées. La guerre au Moyen-Orient et ses conséquences sur le prix des carburants en métropole, les transporteurs routiers et les pêcheurs haussent le ton et menacent de blocage. Quant aux Américains, ils envisagent un nouveau plan d'intervention militaire. Washington déploie de nouveaux moyens sur zone. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'actualité sportive, ce sera évidemment dans le magazine des sports, comme tous les lundis. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François.
En football, on fera le point sur les matchs de l'équipe de France qui prépare la Coupe du Monde avec une nouvelle victoire en match amical ce matin.
Exactement, même avec une équipe B, les Bleus peuvent voir loin pour ce deuxième match contre des Sud-Américains. Les tricolores ont encore été en réussite en s'imposant sur les Colombiens 3-1 après le succès sur les Brésiliens 2-1. Et le sélectionneur aura bien du mal à composer une liste en vue de cette prochaine Coupe du Monde avec tout le potentiel qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, pour grossir les rangs de l'équipe de France.
La Formule 1, il a 19 ans, il est italien, il s'appelle Kimi Antonelli et il domine le début de saison.
Exactement, et encore un record de précocité, donc, puisque l'italien est devenu le plus jeune leader du championnat du monde de Formule 1. Kimi Antonelli qui a décroché sa deuxième victoire consécutive sur le tracé de Suzuka au Japon. Le français Pierre Gasly aussi était en forme avec son Alpine. Il a terminé 7e, soit un 3e Grand Prix d'affilée dans les points.
Et puis côté calédonien, nous évoquerons un événement du week-end prochain, une épreuve de Swim and Run.
Oui, Swim Run Volvic de Yate. Plus de 400 participants attendus pour cette troisième édition, dont le double champion du monde de la discipline, Hugo Tormento, de retour sur le territoire à cette occasion. Une discipline entre raid et natation qui attire les aventuriers. Nous recevrons donc pour en parler notamment Hugo Tormento, mais aussi Antoine Dalia, président de Dynamic NC, organisateur de cet événement.
Voilà, on se retrouvera donc pour le magazine des sports à la fin de ce journal. Depuis hier, les 33 communes du territoire ont désigné leur maire une semaine après le second tour des élections municipales. Rappelons juste que le Haut-Commissariat a déposé un recours devant le tribunal administratif pour l'élection des maires de Lifou et de Yaté pour des questions de procédure lors du premier conseil de la nouvelle mandature dans ces deux communes. Hier après-midi, la nomination des maires s'est conclue par Nouméa, où Sonia Lagarde a été réélue pour un troisième mandat consécutif. La séquence élection municipale est donc terminée et on retrouve tout de suite la chronique de la semaine écoulée. D'Elisabeth Noir.
Les élections municipales sont passées, ça c'est fait. Et le vaste renouvellement auquel elles ont abouti traduit une évolution sensible du paysage politique calédonien, avec une division poussée à l'extrême dans le camp indépendantiste. On faisait généralement le constat que les partis indépendantistes étaient divisés, mais qu'ils se retrouvaient toujours au moment des élections. C'est un principe qu'il faut désormais conjuguer au passé. En faisant des municipales un référendum pour ou contre Bougival, l'UCF-LNCS s'est en réalité tiré une balle dans le pied. Difficile de savoir si les électeurs se sont prononcés en fonction de l'accord signé le 12 juillet, mais ils semblent surtout s'être exprimés pour rejeter la violence et les outrances, et pour souhaiter l'apaisement. Il est significatif que le FLNCS ait essuyé des échecs, justement dans les communes où son président Christian Théin est allé faire campagne. Et c'est peut-être ce qui justifie la violence de sa réaction vis-à-vis de l'UNI, qui est clairement l'adversaire désigné. Dans un communiqué au ton rageur, le président du FLNCS affirme ainsi que l'UNI encaisse un revers cuisant et il dénonce un virage préoccupant de l'UNI qui a préféré fragiliser l'unité du peuple kanak pour faire le jeu des partis loyalistes et du gouvernement français. Ce à quoi l'UNI répond en s'interrogeant sur le monopole que le FLNKS prétend détenir sur l'électorat indépendantiste. Des échanges qui devraient relativiser les certitudes des députés LFI et socialistes qui s'opposent à Bougival parce que, selon eux, le FLNKS et donc le peuple premier y est opposé. Tout le monde a bien compris que l'adoption de la réforme constitutionnelle, qui doit inscrire Bougival dans la Constitution, est mal partie après son rejet par la Commission des lois de l'Assemblée et le dépôt de milliers d'amendements par la France insoumise et les communistes. Mais il reste encore quelques voies étroites qui peuvent être explorées, des scénarios improbables qui permettraient de sauver Bougival. Le premier, c'est la recherche d'une introuvable majorité par la négociation avec les socialistes et ou le Rassemblement national, qui est lui aussi opposé au texte. Le deuxième, c'est la consultation directe des Calédoniens, qui serait déconnectée du cheminement parlementaire, mais qui donnerait une indication sur l'adhésion ou non des Calédoniens à l'accord de Bougival. Le troisième, c'est la suspension du projet de loi constitutionnel et une ouverture partielle du corps électoral avant les élections provinciales. Mais les partisans de la France refusent d'ores et déjà une demi-mesure qui n'ouvrirait le corps électoral qu'aux natifs. Le quatrième, c'est celui d'une suspension de l'actuelle réforme constitutionnelle et l'organisation des élections provinciales avant la fin juin avec un corps électoral gelé. Mais ça, pour le coup, ce serait inacceptable pour les partisans de la France. Le cinquième, c'est que le président de la République ressorte le projet de loi constitutionnelle sur le corps électoral, celui qui avait mis le feu aux poudres en mai 2024 et qui n'est que suspendu, mais cela apparaîtrait peut-être comme un tantinet provocateur. Et puis il y a aussi l'hypothèse où la motion de rejet déposée par Emmanuel Tchibaou est adoptée. Dans ce cas, le texte ne serait pas examiné par les députés et il repartirait directement au Sénat pour une seconde lecture avant de revenir à l'Assemblée, le temps peut-être de faire évoluer les positions. Le suspense est intense et vous l'aurez compris, les provinciales, c'est loin d'être fait.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Moore que vous retrouvez sur notre site internet ou alors que vous pouvez réécouter cet après-midi juste après notre flash à 16h. Un cœur, une voix appelle à la mobilisation. L'association organise une manifestation demain de 11h45 à 12h30 devant le Haut Commissariat. Son objectif, exiger le dégel du corps électoral pour les prochaines provinciales, quel que soit le vote des parlementaires sur le projet de loi constitutionnelle transcrivant l'accord de Bougival. Raphaël Romano, le président de l'association Un cœur, une voix, était ce matin notre invité.
Le gel du corps électoral, c'est une honte. C'est une honte à la démocratie et c'est une honte que toutes les personnes ne se dressent pas contre cette infâme injustice. Tout le monde, tous les Calédoniens, de tous bords, devraient s'insurger contre ce gel du corps électoral. D'ailleurs, la réalité, c'est que ça concerne toutes les ethnies, toutes les communautés et toutes les catégories socio-professionnelles. Il y a des exclus dans toutes les communes du territoire. Plus de 100 à Canala, plus de 400 à Lifou, avec des noms à consonance kanak, wallisienne, indonésienne. Donc on doit arrêter de faire croire aux Calédoniens que les exclus du corps électoral sont des Européens arrivés il y a un an. Et quand bien même, on peut aimer la Calédonie si on est arrivé il y a 6 mois, il y a 10 ans, il y a 50 ans ou il y a 3000 ans. On aime la Calédonie à partir du moment où on développe la Calédonie et on fait des choses pour que les Calédoniens vivent mieux. On doit pouvoir choisir les élites qui déterminent notre quotidien.
L'appel à la mobilisation a été lancé après le rejet du projet de loi constitutionnelle par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Il s'agit donc d'envoyer un message aux parlementaires.
On a fait du gel du corps électoral un enjeu politique. Non, c'est un enjeu démocratique, c'est un enjeu social. Un corps électoral fermé totalement ad vitam aeternam n'est plus acceptable. Donc les élections provinciales, elles ne peuvent pas se tenir avec un corps électoral fermé et gelé. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, le président de la République ne l'a pas dit à quelqu'un d'autre que moi. Quand il m'a serré la main, quand il est venu en juillet 2023, il m'a dit « Les prochaines élections provinciales se tiendront avec un corps électoral ouvert ». J'ose espérer qu'il respecte son engagement. J'ose espérer qu'il ait des propositions à soumettre en cas de désaccord entre parlementaires, et j'ose surtout espérer que les Calédoniens vont s'insurger contre cette injustice infâme. Tous les rassemblements sont des messages, et notamment aux parlementaires. Le rassemblement, c'est pour dire oui à la démocratie, c'est pour dire oui au vivre ensemble et oui à la paix.
Ce rassemblement pour demander le dégel du corps électoral provincial organisé par l'association Un cœur, une voix est prévu donc demain de 11h45 à 12h30. C'est l'autre grand titre de l'actualité en Calédonie. Après presque un mois d'arrêt, la liaison aérienne avec l'île des Pins reprend progressivement ce lundi. Un vol Aircal est parti de Tontouta à 9h40 ce matin, direction l'aérodrome de Moulé. Le vol retour a dû se poser il y a quelques minutes en direct de la Tontouta. On retrouve Léo Fichou.
Oui Jean-François, l'avion Air Calédonie s'est posé en avance à 11h10 avec seulement 6 passagers à bord. Un début timide, mais un début quand même, pouvait-on entendre dans le hall de l'aéroport et à l'aller pour le signaler. Il y avait eu 29 passagers qui avaient pris l'avion Air Calédonie direction l'île des Pins. Deux vols possibles après l'annonce vendredi du collectif CUNY de la levée du blocage de l'aérodrome de l'île des Pins. Sur les deux rotations prévues aujourd'hui, une seule est donc maintenue puisque celle de ce soir est d'ores et déjà annulée. Les rotations des prochains jours seront ajustées selon la demande et la situation sur place. Mais c'est quand même, je le disais, une bonne nouvelle. Puisque puisqu'on le rappelle, les avions de la compagnie étaient cloués au sol depuis le 2 mars dernier en cause les blocages de tous les aérodromes des îles, celui donc de l'île des Pins, mais aussi ceux des îles Loyauté. Seul le corridor sanitaire aérien était autorisé par les collectifs de citoyens à se poser. Pour les passagers que j'ai pu croiser ce matin à Tontouta, cette reprise marque surtout la fin d'une longue période d'attente. Ils étaient, m'ont-ils dit, sans solution de transport depuis le début du mois. Une situation compliquée, sans réelle alternative, quand on sait aussi que le Betticcio est à l'arrêt depuis plusieurs jours. Cette reprise partielle est donc un soulagement. Et à noter également une nouveauté appréciée des passagers, la mise en place de navettes Tontouta Express, un bus proposé à 500 francs par personne le trajet, de quoi faciliter l'aller-retour entre l'aéroport et Nouméa notamment. Depuis la Tontouta, Léo Fichou, RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Quelle est, selon vous, la prochaine étape après la décision d'Aircal d'entamer une procédure collective auprès du tribunal de commerce? Si vous pensez qu'un plan de redressement est possible, vous tapez 1. Si vous pensez que l'on s'oriente vers la liquidation de la compagnie domestique, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis un anniversaire ce matin sur la base aérienne de la Tontouta. Le général Soubrier, commandant supérieur des FANC, a présidé la cérémonie marquant le 50e anniversaire de l'ET-52. L'escadron de transport 52 de la Tontouta. Cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités civiles et militaires et notamment du nouveau maire de Païta, Antoine Romain. Nous y reviendrons dans notre édition de 17h45. En attendant une première pause de publicité, on va se retrouver dans un instant pour évoquer l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Les petits plats dans les grands. Sans couvercle, chauffer l'eau prend 3 fois plus d'énergie. Et en éteignant vos appareils avant la fin, la chaleur restante termine la cuisson. Simple et malin. Toutes nos astuces sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays. Économisons l'énergie.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité en métropole où l'enquête sur la tentative d'attentat contre le siège parisien de la Bank of America avance. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un jeune homme a été interpellé alors qu'il déposait un bidon rempli de liquide devant le bâtiment, bidon entouré par un pétard et de la poudre. Le jeune homme recruté par Snapchat est toujours en garde à vue et 2 autres personnes ont été interpellées. Peut-être y verra-t-on plus clair sur les revendications de cette tentative d'attentat qui aurait été préparée par un mystérieux groupuscule. Mathis Lang pour Europe 1.
Il s'intitule Mouvement islamique des compagnons de la vertu. Encore inconnu le mois dernier, ce groupe a revendiqué plusieurs attaques ces dernières semaines dans des villes européennes. La première, c'était dans la nuit du 8 au 9 mars dernier, avec une explosion devant une synagogue à Liège, en Belgique. D'autres attaques ont suivi, par exemple aux Pays-Bas, en début de semaine également à Londres. 4 ambulances appartenant à une association juive ont été incendiées. Au moins 6 attaques au total, visant à chaque fois des cibles juives, israéliennes ou bien américaines. Pour les revendiquer, des vidéos ont été publiées sur des chaînes Telegram considérées comme proches des gardiens de la Révolution. Est-ce à dire pour autant que Téhéran est derrière ces attaques? Difficile à dire, mais en ce qui concerne l'attentat déjoué de Paris, une source proche du dossier l'assure. L'opération est, je cite, la concrétisation de la menace iranienne contre les intérêts américains et israéliens partout en Europe.
Cette tentative d'attentat est donc fort probablement liée au conflit au Moyen-Orient qui a toujours des répercussions sur le prix des carburants. Plusieurs professions commencent à hausser le ton en métropole. C'est le cas des transporteurs routiers d'Île-de-France qui envisagent une opération escargot sur plusieurs axes autour de Paris la nuit prochaine. Colère aussi des pêcheurs qui se disent prêts à mener des actions de blocage. Jonathan Thomas est pêcheur et armateur à Saint-Brieuc.
On est vraiment en colère. Nous, là, aujourd'hui, il a 1,20€, 1,30€ de moyenne, le gasoil détaxé. Et nous, à partir de au-dessus de 70 centimes, c'est plus viable déjà. Le bateau gagne pas d'argent. On arrive à tirer un salaire minimum, les gars ont un SMIC, on paye nos charges, mais on ne gagne rien. Donc déjà, nous, ce qu'on demande, c'est au moins bloquer ça. On demande pas à faire de l'argent, on demande juste à survivre. Aujourd'hui, on nous dit, on vous donne 20 centimes déjà, c'est pas assez. Mais vu que ça augmente toutes les semaines, en fait, c'est n'importe quoi. Nous, ce qu'on demandait, c'était un prix fixe. Bah, là-dessus, je peux vous le confirmer, on y va, on va bloquer le pays, c'est sûr. Que ce soit les pêcheurs, les agriculteurs, là, pour l'instant, ça s'échauffe. Le gouvernement essaie de calmer les choses, donc on attend de voir, mais c'est sûr, là, on part sur un blocage national.
Jonathan Thomas qui évoque donc la colère des pêcheurs en Bretagne notamment. Cela fait maintenant un mois et demi que le conflit au Moyen-Orient est lancé et que le détroit d'Ormuz est bloqué. Les contacts diplomatiques n'ont pour l'instant rien donné et les USA envisagent sérieusement un plan d'intervention. Ils ont encore renforcé leur présence militaire sur zone. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Oui, mais attention, il ne s'agirait visiblement pas d'un déploiement à grande échelle comme ce que les États-Unis ont pu faire en Irak en 2003. Cette fois, le Pentagone travaille, selon le Washington Post, sur des scénarios plus courts, des raids en territoire iranien menés par des membres des forces spéciales, appuyés par d'autres soldats. Parmi les cibles évoquées, les îles stratégiques qui servent de hub pétrolier à l'Iran, celle de Karg notamment, et puis des cibles liées au nucléaire. Principalement le stock d'uranium enrichi que Téhéran est accusé d'avoir constitué et dissimulé dans la région d'Ispahan. Donald Trump lui-même a évoqué plusieurs fois cette possibilité depuis le début de la guerre. Alors, pour l'instant, le président américain n'a validé aucun des plans d'intervention terrestre proposés par le Pentagone, mais d'importants renforts sont arrivés ces derniers jours. L'USS Tripoli mouille désormais dans la région. Il est à la tête d'un groupe naval de 3500 marins et soldats du corps des Marines. Quelques 3000 parachutistes de la 82e division aéroportée seraient eux aussi sur le qui-vive. Cette unité de réaction rapide capable d'être déployé n'importe où dans le monde en moins de 24 heures. Enfin, selon plusieurs médias américains, Donald Trump envisagerait d'envoyer au moins 10 000 soldats supplémentaires dans la région. 50 000 prennent déjà part au conflit.
Quant à l'État d'Israël, il reste la cible de la riposte iranienne. La nuit dernière encore, des missiles ont été tirés sur une installation énergétique à Beersheva. 11 personnes ont été blessées par des débris de missiles. Et après un mois de guerre et d'incessantes alertes aériennes, les Israéliens soutiennent la guerre, même si des voix dissonantes commencent à se faire entendre. Frédéric Simon pour Europe 1.
La majorité des Israéliens continuent d'approuver la poursuite de l'offensive contre le régime iranien en dépit d'un bilan s'élevant à 24 tués et plusieurs centaines de blessés, malgré une vie quotidienne fortement perturbée et rythmée par les fréquentes alarmes indiquant l'approche des missiles. Les écoles restent fermées, l'activité économique est au ralenti et la quasi-totalité des liaisons aériennes ne fonctionne plus. Malgré ces difficultés, pas moins de 78% des juifs israéliens soutiennent la poursuite de la guerre. Les sondages indiquent toutefois une érosion de l'enthousiasme constaté dans les premiers jours. Et on a assisté hier soir aux premières manifestations d'opposants à la guerre. Plusieurs centaines de personnes rassemblées à Tel Aviv et à Haïfa, notamment, elles ont été dispersées par la police, qui estime que ces manifestations contrevenaient aux consignes de sécurité. Si l'opposition à la poursuite de la guerre reste minoritaire, elle pourrait s'amplifier en cas d'enlisement. Autre scénario qui pourrait heurter l'opinion, la fin des hostilités, mais sans que l'Iran n'ait consenti à de réelles concessions sur ses capacités nucléaires. À quelques mois des élections prévues pour l'automne prochain, l'enjeu est de taille pour Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre pourrait difficilement se présenter devant les électeurs sans succès incontestable de la guerre menée contre le régime iranien et contre son allié du Hezbollah libanais.